Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du rendez-vous des audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Geoffrey. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Bah, merci beaucoup Priscilla de m'avoir invité. Je suis super content de participer avec toi à ce podcast.
Tu es le CEO de la startup Quit, la première application pour arrêter de fumer. En fait, ça a commencé en 2012 où tu t'es dit que tu voulais arrêter de fumer, pardon.
Et ouais, je voulais arrêter de fumer et je voulais faire une app mobile. Et du coup, je suis allé voir sur l'App Store ce qu'il y avait comme application. Ce que j'avais vu me plaisait pas beaucoup. Et donc, c'était un projet soirée week-end qui a petit à petit grossi et qui s'est transformé en entreprise en 2017, ou en start-up.
En soirée week-end, c'est-à-dire autour d'une bière, tu en as parlé ou...
Si
Ah non, start-up week-end, j'ai pas
non, non plus.
compris.
Non, non, non. Je bossais chez moi
Ah.
le soir. Je bossais chez moi le week-end pour faire l'application, pour la développer, pour la créer, pour la faire connaître. Je faisais tout ça en plus de mon travail du jour qui était où je bossais dans l'informatique.
D'accord, un side project.
C'est ça.
De 2012 à 2017, tu l'as monté seul?
Ouais, je,
T'as eu des
2000.
gens qui sont rentrés, non?
Non, j'étais seul. Après, j'avais des. On va dire, j'étais majoritairement seul. J'avais quelques gens qui m'aidaient sur des petits trucs, mais plus parce qu'ils croyaient dans le projet. Et que c'était. Quand t'as pas une structure juridique à côté, voilà, c'est compliqué de faire des choses. Tu peux pas avoir de stagiaires, pas de salariés, etc., etc. Et il a fallu faire pas mal évoluer le business model pour que ça commence à ramener assez d'argent. Après, ça m'a quand même permis de changer de boulot, donc de bosser dans les apps mobiles, ce que je voulais faire. Et 2016, j'ai quitté mon boulot, j'ai fait une première start-up avec quelqu'un que j'avais rencontré quelques mois avant, aussi dans les apps mobiles, mais pour le commerce de détail. On a passé un an dessus, on s'est planté royalement. J'ai appris beaucoup de choses, surtout dans la partie, toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Et après 2017, j'ai réussi à convaincre deux amis à moi de me rejoindre, enfin ouais, deux amis à me rejoindre dans Quit, et après c'est devenu plus simple.
Donc, on va dire que tu as eu l'idée, tu l'as commencé, tu l'as mis de côté?
Ah non, je continuais à travailler dessus, je développais à peu près, je sais pas moi, 1 à 2 mois par an, et le reste du temps c'était du marketing, du support, je répondais toujours aux gens, j'essayais d'avoir des articles dans la presse, dans les blogs, etc., etc. Mais c'était voilà, c'était si j'avais envie.
Oui, parce que tu disais que tu as monté quelque chose d'autre.
Mais ça s'est fait assez vite, hein. L'autre, j'ai pas trop réfléchi, hein. On avait une pseudo-idée, un premier client, et on est parti sur ça, et on n'a jamais eu de deuxième client. Du coup, ben, après, on n'avait plus de sous, et on n'avait plus de sous, on s'est crashé.
Et t'en as retenu quoi de cette mauvaise expérience?
Que quand tu t'associes, il faut t'associer avec des gens avec qui ça va bien se passer aussi quand ça se passera mal. Ça, c'est la première étape, c'est comment gérer les moments où c'est dur. Parce que quand tout est bien, je pense que tu pourrais avoir n'importe qui soit associé, et ça se passerait toujours bien, parce que, ah, super, ça marche. Même les égos, tu les mets de côté et tu t'en fous. Mais dès que tu as un petit grain de sable dans la machine, c'est là que tu vois que si tu étais bien associé ou pas. Si les rôles étaient bien définis au début, les responsabilités, etc., etc. Si les raisons de créer une boîte sont les mêmes pour tous, ou au moins compatibles. Parce que tu peux avoir, si tu es là, nous on est trois, on n'a pas forcément tous les mêmes raisons, mais nos raisons sont compatibles.
Oui, c'est ça qui est
Voilà,
important.
donc il faut que les raisons soient compatibles. Après, on a recruté bien trop tôt. Voilà, on a dépensé beaucoup plus trop de sous par rapport à ce qu'on avait, quoi. Et voilà, on avait des responsabilités pas très claires, et voilà, où j'avais à ce moment-là un rôle plus technique et mon associé un rôle plus commercial, et la partie commerciale n'a pas forcément suivi. Donc c'était un peu dur aussi. Après, moi, je me retrouvais à devoir faire du commercial, ce qui n'était pas c'était pas écrit comme ça au début.
Surtout que c'est compliqué quand on n'a pas la fibre, on va pas loin. On abandonne
Oui,
vite.
et puis après, comme dit, enfin, je pense pas être non plus mauvais vendeur, quoi, mais il faut que je croie dans le produit, il faut que je sache pourquoi je le fais, en fait. Quand tu sais pourquoi tu le fais, c'est beaucoup plus simple.
Oui, à vendre.
Oui. Mais du coup, tu comprends pas. Tu es juste convaincu. La force, c'est justement de. Si tu es sûr que ton produit, c'est le meilleur et qu'il rend le meilleur service, finalement, tu le vends pas. Tu essaies juste de convaincre, enfin, t'expliques aux gens et t'éduques que voilà, la solution, c'est ça. Et je pense que c'est ça la force des vraies bonnes boîtes qui cartonnent, en tout cas en tout ce qui est B2B, c'est parce que le produit, ben, tu ne peux pas t'en passer, quoi.
Ouais, c'est le pourquoi en fait.
Ouais.
Et donc après, tu t'es investi pleinement dans Quit.
C'est ça.
On peut dire que tu as créé un peu l'application de tes rêves. Pour arrêter de fumer, genre, tu t'es dit,
Bah
s'il y avait
oui,
ça.
s'il y avait ça. Mais après, avec le temps, là, aujourd'hui, enfin, on a toujours, donc on a une roadmap produit. J'aimerais toujours que toutes les idées qu'on a en tête, elles soient déjà faites, en fait. Et bien faites, et c'est ce qui est le plus dur, parce que le but d'une app, elle évolue tout le temps. Et le problème, si tu rajoutes des choses, il faut en enlever beaucoup. Et c'est toujours des grosses réflexions sur qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève, etc. etc. Donc, c'est des choix. Parce que si c'est une usine à gaz, une app, ça doit rester super simple. Mais en même temps, ça doit être super riche, et etc. Donc, il y a pas mal de. Donc, l'optique. J'ai plutôt créé l'équipe de mes rêves, en fait, pour pouvoir avoir toujours l'app de mes rêves. C'était ça la clé. C'était avoir toutes les compétences que j'imaginais qu'il fallait pour faire l'app. Et aujourd'hui, je pense qu'on a toutes les compétences. On pourrait en avoir plus de chacune, mais ouais, globalement. J'ai de la chance par rapport à ça et j'ai que des gens très talentueux qui justement permettent de garder Qt comme la meilleure app et en constante évolution positive.
Vous êtes combien dans l'équipe?
Là, on est 16.
C'est beaucoup et pas beaucoup en fait pour gérer une nappe comme ça.
Ouais, c'est jamais assez. Quand il faut payer les salaires, c'est toujours trop.
C'est ça.
Donc, non, voilà, pour l'instant, on n'a pas. Enfin, là, on a. Il y a 5 personnes qui sont arrivées depuis 2000, en 2021 et du coup on va un peu se calmer, il n'y a pas de raison là, on n'a plus de gros postes ouverts hein, après hors stagiaire, mais bon là faut quand même, on est sur les 16, on est plus d'une dizaine de vrais contrats, de contrats CDI, CDD, quelques alternants et très peu de stagiaires quoi. Au début j'avais beaucoup de stagiaires et tout ça, et là on remplace petit à petit ces ressources par des internes.
Rémi me disait que pour faire des bonnes levées de fonds, il faut aller à Paris. Tu l'as fait aussi?
La deuxième, on est un peu à Paris, ouais, pas mal à Paris. Et la première, on était ouais, pas assez connu. J'avais un peu, enfin, j'avais testé un petit peu Paris, mais à l'époque, on était trop. On avait, enfin, après, en termes de mindset et d'écosystème, ils ont beaucoup d'avance sur nous. Donc, quand tu vas les voir, le problème, c'est qu'ici, les gens, ils sont pas formés à ce qu'attendent des investisseurs parisiens, des fonds parisiens. Je dirais rien sur le seul fonds local qu'on a, j'ai encore me prendre des tacles sinon, mais. Et donc voilà, donc c'est pas du tout, enfin c'est pas du tout. La mentalité des startupeurs ici, elle est assez différente de celle des Parisiens, on va dire, qui ont un peu d'avance, et du coup, quand tu vas là-bas, tu te retrouves, oui, c'est pas qu'ils te regardent de haut déjà, tu fais partie de la campagne, donc ils aiment pas trop ça les Parisiens, mais au-delà de ça, ils ont un mindset qui est vraiment différent et qu'il faut comprendre.
Oui, c'est pareil, la province.
C'est un peu, mais au-delà de ça, parce que ça a des écosystèmes en France qui commencent à être tout aussi bons que Paris aujourd'hui, ou Nantes, ou dans le sud, là où a grandi Criteo. Nantes, c'est une super ville avec plein de startups, plein de scale-up. Et aujourd'hui, en Alsace, c'est des scale-up qui s'affichent comme des scale-up, qui recrutent beaucoup de gens, qui sont visibles. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, voire zéro, quoi. Ou même les quelques boîtes qui marchent, elles sont pas trop dans la lumière. On va plutôt mettre en avant des toutes petites startups parce qu'on pense qu'il faut les aider. Alors, c'est important d'aider les petites startups, mais je pense qu'il. L'essaimage de visibilité, ça fait du mal à l'écosystème. Parce qu'on voit plein de petits acteurs et finalement, les quelques-uns, comme je sais pas, Epopia de Rémi, qui est plutôt une belle boîte et qui commence à bien grossir, ces gens-là, aujourd'hui, ils n'ont plus beaucoup de lumière, alors que finalement, c'est sur ce type de boîte qu'il faudrait mettre le plus de lumière possible.
Ben c'est souvent ça, quand on se lance au début, tout le monde fait waouh, ouais, c'est trop bien et tout. Et après, ils nous voient loin, donc ils s'occupent plus de nous, ils se disent ouais, c'est bon,
Ouais, mais il faudrait faire
elle a
l'inverse, il
avancé.
faudrait pousser les gros et les gros poussent les petits en fait, parce que ça attire de meilleurs talents, ça fait venir les investisseurs. Voilà, il y a des investisseurs qui ont investi chez moi, qui ont des Parisiens qui ont du coup aussi investi dans une autre boîte, qui vont investir dans une autre boîte du coin. Et après, faut être parmi les premiers, quoi. On a aussi, nous, on a eu, il y a Kima, Kima Venture qui a investi chez nous, et c'était la première boîte de Strasbourg dans laquelle Kima a investi.
Ouais, Jean de La Roche-Brochard, là.
C'est ça, Jean, mais c'est très sympa.
J'aime bien. J'aime bien, je
Oui,
trouve qu'il est intéressant quand il
tu lui
parle.
parles 1 heure et demie, puis il te met de l'argent, il investit sur toi, donc c'est plutôt bien.
Ah, je crois que c'était qu'une demi-heure. Ah non, mais il a dû changer, je pense.
Au bout d'une heure, il me l'a
Oui.
dit, mais on a quand même parlé 1 heure. Mais j'ai eu de la chance parce qu'en fait, sa sœur a arrêté de fumer avec Quitte. Ça
Ah.
m'a beaucoup facilité le.
Bah,
Ça
ça
m'a
pèse dans
beaucoup.
la balance. Hein.
Ah oui, je pense que ça a tout fait, sinon il n'aurait rien eu à faire. C'est pas très grave, c'est logique, c'est pas les mêmes grilles. On reste des petites startups de province, entre guillemets, et surtout Strasbourg. Le problème de Strasbourg, c'est aujourd'hui. L'écosystème a pas assez de visibilité par ce manque de scale-up qui s'affiche. On avait quelques scale-up plutôt sympas. On avait, enfin, je sais pas, FizzUp, mais qui à un moment donné a pas poursuivi la trajectoire. On va avoir Jérémy Viss qui a aussi des boîtes, mais qui transforme ça en PME et puis avec une autre mentalité. Et donc globalement, ces gens-là qui ont été beaucoup soutenus en termes d'investissement en 2016, 2015, entre 2014 et 2017, on va dire, tant que Capital Grand Est avait des sous, ces gens-là, après, ils n'ont pas fait ce relais de visibilité qu'ont eu quand même beaucoup d'autres écosystèmes. Et aujourd'hui, on ne le paye pas, donc si on le paye un petit peu en termes de retard, de visibilité pour les investisseurs. Et l'investisseur, il a investi, ok, il a les critères financiers sont importants, hein, évidemment, il va regarder ta croissance de MRR, ta croissance, ou la métrique qui claque, qui explose. Mais derrière, il regardera aussi, ben, tiens, est-ce que je suis le seul à vouloir investir dessus? Pourquoi est-ce que tout le monde se bat pas? Enfin, le FOMO, quoi. Si les gens ont peur de rater un truc, ils vont y aller. Et s'ils n'ont pas peur de rater, ben, limite, ils prendront leur temps. Et j'ai parlé avec plein de fonds ou d'investisseurs, et certains, la différence, c'était ça. C'était juste que, voilà, il manquait ce petit truc. Ils étaient convaincus, ils adoraient. Mais au dernier moment, il y avait voilà, ce manque de. Si tu te dis pas, je vais rater un truc, t'as presque l'impression de rien rater, donc tu veux pas y aller. Et ce truc, je vais rater un truc, c'est s'il y a un vrai attrait d'écosystème, avec beaucoup d'acteurs qui veulent tous aller au même endroit.
Et c'est pas ce qu'on fait encore ici, quoi.
Bah, pas assez. Après, je sais que CMIAS bouge beaucoup pour rendre le Grand Est plus attractif. Je sais, la région fait beaucoup de choses avec Scalinov, avec Grantinov pour faire des choses aussi. Enfin, il y a des acteurs qui bougent, mais ça prend du temps.
Mais je parlais avec des gens dans l'entrepreneuriat et on disait comme quoi même l'Alsace, c'est plus un univers industriel, etc. Donc peut-être qu'on a plus du mal à faire bouger les choses ici, parce qu'on aime bien tout ce qui est medtech et industrie.
Alors, MedTech, oui, mais après, rien n'empêcherait de faire une ville que MedTech, mais à fond.
Il y en a qui aimeraient faire ça.
Mais pas à moitié, alors tu le fais à fond.
Ça, le
Voilà.
problème.
Et après, le problème industriel, alors oui, alors on a quelques belles ETI, et un autre problème, entre guillemets, c'est que les ETI du coin, elles n'utilisent pas beaucoup de produits des startups ici. Alors moi, je suis pas B2B, donc je m'en fous, mais je connais des boîtes B2B qui pourraient être beaucoup plus utilisées par un Socomec, par Aguerre, par tout ça, Cuisine Schmidt, je sais pas qui encore, qui est dans la région. Quelques belles ETI qui font plusieurs milliards de chiffre d'affaires, ben ces gens-là, ils devraient ou ils pourraient à minima investir et à maxima utiliser les produits fournis dans le coin, quoi. Et là, pareil, il y a des initiatives, mais c'est toujours des sortes d'essaimages. Et donc, ils essayent. Le problème, c'est qu'on essaye beaucoup de choses et met plein de petites choses à la place d'en faire une, mais à fond. Et ça, c'est après, je pense que c'est partout pareil, mais en tout cas, au niveau français, c'est souvent ça. On préfère essaimer que mettre beaucoup d'argent à un endroit.
On soutient moins qu'en Amérique, par exemple.
Ouais, après, je sais pas, on a beaucoup d'aide. La BPI aide beaucoup. Trouver de l'argent, c'est pas. Même hors investisseur, hein, il y a des subventions, il y a des aides, il y a des concours et tout ça. Mais du coup, on crée des boîtes qui sont très bonnes en concours. Mais on ne crée pas des boîtes qui savent faire du chiffre. Et aux États-Unis, je pense qu'il y a moins de grants, de subventions. Mais par contre, il y a une mentalité business beaucoup plus présente dès le début. Et c'est ce qu'il a fallu aussi. Bah, pourquoi Quit a mis tellement de temps à grossir? Bah, parce qu'au début, quand tu vois la qualité du marketing et du mindset des Américains, par exemple dans les apps mobiles, hein, c'est ce que je connais le mieux, ben, ils sont à des années-lumière. Nous, en France, convaincre l'équipe que non, vendre notre produit, c'est pas mal, essayer d'expliquer aux gens qu'il y a une partie payante, c'est pas le mal, et que le but, c'est ben, ceux qui payent pas, tant pis, ils payent pas, et c'est pas trop notre souci, même si on est ravis de leur rendre un service. Et les Américains, ils l'ont compris tout de suite, tu payes ou tu sers à rien, quoi. Au final, le service rendu elle-même, par contre, ils vont 10 fois plus vite parce qu'ils ont le business en tête dès le début, quoi. À la place d'être petit mine en disant oui, j'ose pas vendre, blablabla, enfin, ce que tu disais avant sur le fait de savoir vendre, quoi.
Mais c'est vrai qu'il y a toujours la petite partie gratuite, tu peux faire des petites choses et après si tu vas aller plus loin, ben faut payer. C'est comme tout, c'est normal, enfin t'es
Ouais,
pas
mais
une
là.
association quoi.
Ouais, mais du coup. Alors, dans l'addiction, nous, le problème, c'est qu'on a quand même des concurrents, entre guillemets, gratuits. Ben, t'as pas info service, il y a des apps gratuites, des gens vont quand même râler en disant oui, mais c'est honteux d'être. Enfin, vous volez les gens alors que ils vont payer 350 euros par mois en cigarettes, mais nous leur demander 10, tu vois, on les vole. Ben oui, c'est vrai, on est les voleurs, quoi. Oh, vous exploitez la misère humaine, ouais, je sais pas, mais Philippe Maurice, ils exploitent ton addiction, donc je sais pas ce qui est le pire, quoi. Nous, on veut t'en sortir, donc voilà.
C'est qu'en fait, l'argent, c'est là où tu le mets, quoi. Enfin, tu le choisis. Tu préfères mettre 350 euros?
Bah
Non, je
aujourd'hui,
ne suis pas fumeuse.
c'est 10,40 € un paquet de cigarettes. Donc, si tu fumes un paquet par jour, on y est presque, quoi. Ou on est à 300 €.
Et voilà, donc ça vaut un paquet par jour. Ton
Ouais,
appli.
c'est
Ok.
ça. C'est un jour.
Voilà.
Pas un paquet,
Oui, ça fait un paquet.
c'est ça. Mais ta santé, elle vaut pas un paquet de cigarettes. Ta santé, tu préfères dépenser 300 € pour fumer.
Voilà. Partir en vacances, week-end. Se former, investir dans une boîte.
C'est ça, mais bon, bref. Mais après, ça va. Mais ça, c'est assez français et on n'a pas trop ce genre de critique ailleurs, quoi.
Mais t'es à l'international alors?
Oui, on est depuis le début. Déjà, le choix de nom aussi, c'était tout de suite un choix de nom. Quand j'ai fait Quit au début, je me suis pas dit, je savais que l'App Store c'était le monde entier, donc je me suis pas dit, je vais faire arrêter de fumer. Donc Quit, c'est la phonétique de tout Quit. en américain, et donc ça veut dire to quit smoking, quoi, arrêter.
D'accord.
Et dès le début, là, péter en quelques langues, cinq langues, je crois, parce que j'avais des amis qui parlaient espagnol, italien, allemand, anglais, il n'y avait pas de souci de mon côté. Donc, dès le début, c'était en cinq langues. Et après, des utilisateurs me contactaient pour traduire l'app, un russe, un turc, un chinois, petit à petit. Mais là, aujourd'hui, on est en 16 langues. Et on fait, je sais pas, 30% de l'activité en France.
Ouais, j'allais dire, est-ce que tu es le plus implanté justement en Amérique, en Angleterre ou en France?
Alors, Amérique-Angleterre, non, parce que c'est super fragmenté. En Europe, on est premier en termes de téléchargement. Et dans le monde, on est deuxième ou troisième en termes de téléchargement.
C'est plutôt cool.
Et le premier, c'est un anglais, mais je pense qu'on va bientôt le rattraper.
Et il fait aussi payant ou il y a une
Ouais,
partie?
payant, mais bien moins cher. Et bon, en fait, c'est si mes informations sont justes, c'est un mec tout seul, un médecin qui outsource tout.
En fait, je me disais, tu t'as voulu arrêter de fumer, mais t'as passé par tout ce que tu mets dans ton appli pour arrêter de fumer?
Les premières versions, c'était vraiment ce que moi j'avais envie dans une application pour m'aider à arrêter de fumer. Donc c'était une partie, c'est toute la partie vraiment autour de la gamification où tu gagnes des points et tu progresses comme dans un jeu et tout ça, c'était cool. Et c'est ce que je cherchais. Et puis après, quand en 2017, on s'est concentré sur Qt, on a cherché comment on pourrait aussi ajouter une partie beaucoup plus scientifique. Et là, on a découvert les thérapies comportementales et cognitives. Et du coup, je suis allé sur LinkedIn, j'ai cherché des gens spécialistes et j'ai parlé à plein d'étudiants, plein de spécialistes du coin. Et c'est là qu'on a eu la chance de trouver une chercheuse qui nous a rejoint, qui finissait son master et qui voulait faire une thèse, et donc qui fait sa thèse chez nous. Et voilà, et depuis, tous les nouveaux développements maintenant, ils sont entre guillemets, issus de R&D avec la chercheuse, quoi.
D'accord.
Autour du behavioral change, donc changement de comportement.
Les gens, en fait, ils se connectent à l'appli, donc il y a le jeu pour arrêter de fumer. Et en fait, ça se passe comment quand ils sont dessus?
Ils mettent quelques informations sur leurs anciennes habitudes tabagiques. Et après, ils auront accès à une première partie de donc la couche de gamification où, au fur et à mesure de leur progrès, ils gagneront des points et ils seront informés sur les changements bénéfiques qu'il y a sur leur corps. Les risques de maladies qui diminuent, le teint qui s'éclaircit, les bienfaits sexuels, enfin tous les bienfaits que tu as quand tu arrêtes de fumer. À côté de ça, tu as une partie outils pour gérer les envies. Donc ça t'aide à mettre en place des stratégies pour quand tu as une envie de fumer qui arrive. Donc on va te demander l'intensité de l'envie, l'état émotionnel, le contexte, et on va te proposer une stratégie qui va être boire un verre d'eau, faire un exercice de respiration, tirer une carte de motivation, enfin voilà, différentes stratégies. Et ensuite, voilà, on va refaire le point avec la personne pour savoir à quel point ça l'a aidé. Donc au fur et à mesure, ça sera mieux. La personne d'elle-même, elle va aussi développer des stratégies et les comprendre, et au bout d'un moment, elle peut le faire sans cuite, hein. Le but, c'est aussi d'autonomiser les gens. Et il y a toute une partie aussi de gestion émotionnelle, puisque l'arrêt du tabac est aussi beaucoup lié aux émotions, avec un suivi de régulation émotionnelle quotidien, où on va te demander quelle était ton émotion principale, d'y réfléchir, et voilà, autour de ça. Et là, on est en train de finaliser, enfin de finaliser. Le 31 mai, normalement, sort une des plus grosses mises à jour de l'application qu'il y ait jamais eu, qui est. Donc aujourd'hui, l'application, elle marche très bien quand tu viens d'arrêter de fumer. Ou quand tu veux arrêter dans la minute, quoi, ou que tu as arrêté il y a une semaine. Et il manquait cette petite phase de préparation, qui est en général entre 7 et 10 jours avant l'arrêt définitif. Et là, on a fait un programme de fou qui va sortir le 31 mai, qui permettra d'aider les gens qui ont envie, mais qui ont un peu peur. Et on va les préparer. Et c'est un truc, ça va être chouette. Je suis très impatient. Donc ça rapprochera l'application de ma vision parfaite de l'app dont on parlait tout à l'heure.
D'accord. Et ça peut aussi aider les gens qui ont voulu arrêter 1000 fois de fumer, qui ont essayé 2 semaines et qui ont repris.
Tout à fait. Mais souvent, en moyenne, tu t'essayes entre 4 et 12 fois, hein, avant de réussir. Donc c'est, en fait, c'était. Et il faut pas voir ça comme des. Enfin, faut voir ça comme de l'apprentissage. En fait, tu apprends à essayer d'arrêter de fumer. Et du coup, imaginons, tu essayes, tu tiens 2 semaines, et 99% des gens, ils vont se sentir mal en disant oui, je suis nul, j'arrive à rien, je suis stressé, je fume. Et alors qu'en fait, le vrai. Parce que aussi parce que t'es vachement culpabilisé, hein. Les paquets de cigarettes, c'est culpabilisateur. Les publicités habituelles, tabac info service et tout ça, c'est fumais-tu les gens à côté de toi. Enfin voilà, on le sait. Hein. J'étais fumeur, hein, je savais que ça me tuait la cigarette. Même si c'était pas écrit sur le paquet de clope, je le savais, il n'y a pas de souci. Et donc tu es culpabilisé alors qu'en fait tu te dis le mieux c'est de réfléchir, ok, ben, pourquoi j'ai repris? Ah ouais, peut-être parce qu'à ce moment-là, je suis sorti avec des potes, ils m'ont proposé une cigarette et je l'ai fumée. Alors que si j'avais attendu 2 semaines de plus pour sortir avec mes potes, j'aurais peut-être dit non à la cigarette. Ou à ce moment-là, je serais pas sorti avec eux sur le trottoir et je serais resté à l'intérieur. Je serais allé me commander un verre d'eau ou un truc comme ça. Donc tu vois, t'apprends. La vraie clé, c'est d'apprendre de ces échecs. Et que c'est comme quand tu apprends à marcher, tu tombes et puis tu te relèves quand tu es bébé. Aujourd'hui, on marche tous, sauf les gens qui ont des problèmes moteurs, mais bon, ça, on va dire c'est la minorité. Mais bon, globalement, tu apprends à marcher, on marche tous, on est tous tombés en apprenant à marcher. Quand on était enfant, on s'est tous cassé la gueule dans les escaliers un tout petit peu, et voilà. Et pourtant, aujourd'hui, on marche tous. Donc, c'est un apprentissage d'apprendre à arrêter de fumer et d'arrêter de fumer.
Mais c'est une addiction aussi fo tellement forte aussi qu'on donne à notre corps et à notre cerveau que c'est normal que c'est difficile en fait d'en sortir.
Ouais, mais c'est la nicotine. Après, la nicotine a un côté addictif très fort, qui est similaire à la cocaïne et à l'héroïne. Mais après, la nicotine en tant que telle, normalement, n'a pas forcément de gros effets secondaires. Il n'y a jamais personne qui est mort d'une overdose de nicotine. C'est pour ça que tous les cigarettiers, maintenant, ils poussent. Avant, il y avait les pharma qui poussaient la nicorette avec de la gomme, du spray, des patchs, ce que tu veux. Maintenant, tu as les cigarettes électroniques qui sont beaucoup plus efficaces parce qu'au final, la nicotine arrive plus vite dans le cerveau. Et deux, tu as le geste et tu as la fumée dans les poumons. Parce que finalement, c'est des accoutumances que les fumeurs prennent. Et par contre, on n'a pas d'effet, on n'a pas de retour à très long terme des effets de la vape.
Mais j'avais vu tout un reportage sur l'addiction voilà, à la cigarette, etc. Et en fait, ils avaient créé même des scientifiques pour répondre au problème de la cigarette, mais ils répondaient à toutes les questions possibles, mais jamais à la question précise de est-ce que le tabac, c'est mauvais?
C'était le reportage sur Arte.
Ouais.
Ouais, je l'ai vu aussi. Ouais. Quand ils avaient réussi à prouver que la cigarette provoquait le cancer des poumons et qu'ensuite ils ont pris plein de scientifiques pour dire ah mais est-ce que ce serait pas le mois de naissance? Est-ce que ce serait pas ouais. Horrible.
Ils ont un peu noyé le poisson.
C'est comme ça qu'ils font. Plus ils gagnent de temps, plus ils gagnent de cash. Leur but c'est gagner du temps et du cash. Et aujourd'hui donc la plupart des cigarettes électroniques sont possédées par des cigarettiers, en tout cas des grosses marques.
Oui, donc en fait, ils
Et
diversifient,
ils
c'est
font
tout.
une transition, ils ont même renommé le marché de la cigarette en marché de la nicotine aujourd'hui. Parce qu'ils savent que la cigarette, c'est globalement fini. Si tu prends Philip Morris, ça fait 3-4 ans maintenant que leur nouvelle vision, mission ou phrase, c'est créons un futur sans cigarette. Hein. Ah oui, c'est du bon foutage de gueule, oui, mais s'ils m'entendent, on peut quand même encore peut-être travailler avec moi un jour, mais.
Oui, parce que s'ils n'existent plus, bon, peut-être que toi, ton rêve, c'est de dire un jour que ton appli, tu peux la fermer parce que personne ne fume,
Ah,
mais
ce
bon,
serait bien ça, oui, mais après,
n'y crois pas trop.
j'y crois pas trop. Non, mais après, dans le but, on a plusieurs axes de développement, mais toute la partie scientifique qu'on utilise, elle est applicable pour plein d'autres addictions et pour les troubles de comportement. Donc, on peut aussi aider les gens à mieux vivre. Notre vision, c'est le bien-être par le changement de comportement.
Parce qu'après, tu peux dupliquer ça sur
Ou
d'autres addictions.
adapter, ouais, sur les addictions, sur l'anxiété, l'angoisse, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, la gestion émotionnelle, etc., etc. Il y a beaucoup d'aspects qu'on peut traiter et on voit aujourd'hui avec les confinements, le Covid, que la santé mentale des gens en a pris un sacré coup et puis qu'ils ont besoin d'aide, quoi.
Et justement, toi, quand tu t'es lancé dans Quit, t'avais pas le revenu conséquent par rapport à
Je
ton
gagnais beaucoup
application.
plus avant.
Voilà, c'est ça, je veux dire. Donc, t'as dû dire à tout le monde, bon, j'ai un super projet, ça va être incroyable, mais par contre, faut que vous me souteniez, l'argent sera peut-être plus autant qu'avant, on va peut-être plus partir en vacances.
Ouais, non, on est quand même parti en vacances, mais
Ça allait?
après, non, ça allait. Après, ma femme s'est aussi lancée en même temps dans une aventure, donc non, on a fait. Ça s'est fait naturellement, quoi. Après, je pense qu'à un moment donné, on gagnait presque trop d'argent, on va dire. Et maintenant, c'est mieux. Enfin, c'est toujours dur, c'est plus dur qu'avant, mais après, globalement, ce qui est dur, c'est que j'ai deux ados, et des ados, ça coûte cher, et il y en a une qui va bientôt partir de la maison, il faudra financer les études. Donc, oui, il y a des coûts. Inhérent à tout ça, quoi, mais que voilà, là, déjà d'avoir la chance de pouvoir aider en partie, voilà, tout le monde n'a pas cette chance. Donc, moi, je m'avais heureux, je me considère pas comme étant à plaindre.
T'as eu des moments difficiles?
Ouais, pas plein après. Oui.
T'as eu envie d'abandonner?
Non.
Jamais.
Non, pour l'instant, non. Parce que déjà, j'aurais pas trop su quoi faire après. Parce que j'étais développeur, je ne suis plus du tout. Alors, je pense avoir plein de compétences et tout ça, il n'y a pas de souci, mais je ne me verrais pas trop où les mettre à profit. Enfin, si, au final, je pense que je n'aurais pas trop de soucis, mais sur le coup, je ne me suis pas dit, tiens, et abandonner, non. Parce que Quand c'était dur, c'était plus, je sais pas. C'était pas une envie d'abandonner, quoi. C'était juste que le sentiment d'injustice, il pouvait y avoir, ou il pouvait y avoir quoi d'autre, il pouvait y avoir. À aucun moment j'ai perdu l'espoir que, enfin, il y avait toujours même quand c'était dur, il y avait toujours un signe positif quelque part. Une métrique qui montait bien, il y avait une bonne nouvelle qui tombait, donc voilà, même quand c'était dur. Et après, certains trucs étaient aussi inhérents au process, hein, genre la dernière levée de fonds, ça a mis 6 mois ou à peu près, entre le moment où on a commencé et on a fini, ce qui est un temps plutôt normal, hein, mais voilà, ça a très bien commencé, puis après c'était flat, pendant 2 mois il se passait plus rien, tu te prends des portes qui se ferment et tout ça, et après tout d'un coup ça repart dans le sens, t'as une bonne nouvelle d'un côté qui fait que ça se passe mieux que prévu initialement, enfin voilà, c'est... Faut juste être prêt à l'ascenseur émotionnel. Une fois que tu sais que ça se passe comme ça, ou la première, là, ou l'autre levée d'avant de 2018, c'était pareil. C'était enfin, poursuivre les mauvais investisseurs, puis être presque mort, et puis après, au final, réussir à faire un montage boiteux qui, au final, a marché, et puis avec des gens qui te soutiennent, qui te montrent, qui croient en toi, et puis ça te redonne le truc, et voilà quoi. Donc tu as toujours, au final, si tu continues à y croire au minimum et que tu bosses, ben, si ton projet tient un peu la route, ça va. Après, il y a aussi des gens qui ont des projets, on leur dit, ils font l'erreur de demander qu'à leur famille et leurs amis qui leur disent ouais, c'est super, vas-y. Et au final, c'est de la merde. Après, il faut aussi être là, réaliste. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour faire des boîtes. Ouais, c'est pas facile. C'est l'ascenseur émotionnel et il faut quand même des gens autour de toi qui sont un peu stables et qui peuvent t'aider, quoi.
Mais je parlais avec un ami qui est coach et je lui disais, ce serait bien d'être coach pour toutes les personnes qui montent des startups. Justement, quand il y a les phases de recherche d'argent, avoir le bon mindset aussi et justement pas avoir peur de gagner de l'argent. Donc je ne sais pas si ça manque pas ça, à Strasbourg des gens qui pourraient soutenir
Après,
des
c'est le
CEO.
boulot des incubateurs aujourd'hui, un peu des accélérateurs. Et le problème, c'est, oui, mais le coach qui veut cibler les startups, il doit pas trop pricer très cher, quoi, parce que globalement, l'argent pour les startups, ça reste la denrée la plus rare. Et te dire, je vais investir 1 500 euros la journée
Non.
ou même 800, alors même 800,
Je
je l'accorde.
parle beaucoup moins. Je parle genre le max d'un coaching, c'est 80 euros de l'heure.
Ouais,
Non,
voilà,
80
donc
euros la séance.
8 x 8, 48, ouais, avec 500 euros la journée pour être coaché, oui, enfin, c'est bien. Mais globalement, aujourd'hui, normalement, pour les startups, ça devrait être ou le rôle, quand tu as de la chance, tu peux avoir des mentors. Hein, tu as des gens, si quelqu'un. J'essaie d'aider autant que possible. Hein, après, je ne le considère pas comme assez avancé pour être un super mentor. Mais bon, dans mon domaine, j'ai pas mal d'expérience. Et donc, ça m'arrive souvent de donner des conseils, déjà d'être mentoré. Après, tu essaies de trouver du mentorat un peu gratuit ou de gens qui peuvent t'aider vraiment. Donc, aujourd'hui, j'ai eu la chance de toujours trouver des gens qui étaient capables de m'aider, on va dire, pro bono. Après, si tu rejoins par exemple ben, Réseau Entreprendre, t'as un mentor qui te suit pendant 2 ans, ou ouais, un an, 2 ans. Voilà, moi le mien, c'était super, c'est super bien passé, donc j'étais très content. J'ai trouvé des mentors en ligne, etc., etc. Donc ça va. Mais je suis pas sûr que pour un coach, ce soit une bonne cible pour faire de l'argent.
Non, je me
Mais oui, ça
dis.
manque, mais ça peut manquer parce qu'il y en a plein qui osent pas parler, qui partent dans les mauvaises directions. Mais après, alors, la question, le coach, c'est une chose, mais est-ce que ces gens-là sont prêts à se remettre en question? Parce qu'il y en a aussi qui sont tellement convaincus de bah oui, c'est bon, j'ai raison, je sais ce que je fais, vous avez tous tort. Et au final, bah, à un moment donné, il faut des gens pour être coaché, il faut être coachable. Et si tu vois, quand il y a, bah, genre par exemple, Scale-Inov, l'accélérateur, un des critères de sélection, au-delà de la startup, c'est est-ce que les gens sont coachables, quoi. Parce que prendre des gens dans un processus d'accélération et de mentoring et qu'au final, les gens, tu sens que quoi que tu leur dises, ils vont jamais t'écouter. Ben, tu les prends pas en fait, même si leur projet est génial et que tu as l'impression que ça peut exploser avec un peu d'aide, mais si les personnes ne sont pas prêtes à recevoir cette aide.
Mais c'est vrai qu'il y en a qui postulent pas du tout dans des incubateurs.
Ouais,
J'ai
mais.
l'une des dernières interviews, c'est Sylvie. Elle a fait des boissons au kéfir. Et en
Ok.
fait, vu qu'elle a tellement de compétences, elle a dit, je vais pas commencer à rentrer dans un incubateur parce qu'en fait, j'ai pas envie de me faire coacher.
Ah voilà, mais elle n'est pas coachable,
Voilà.
si elle n'a pas envie. Mais après, ça n'empêche pas de. Au-delà de l'incubateur, d'essayer de rejoindre quand même l'écosystème, hein, je sais pas si c'est sur Strasbourg, ben, de rejoindre la French Tech Strasbourg, parce que même si tu n'as pas de coach, tu es au moins au courant peut-être ben, des dernières news, tu peux avoir des infos sur éventuellement ben, justement toutes les aides dont on parlait, si à un moment donné il faut des investisseurs, ben, on peut aussi diriger, donc même si tu ne rejoins pas forcément une structure d'accompagnement, tu peux au moins rejoindre l'écosystème pour bénéficier ben, et aider l'écosystème et être aidé par l'écosystème.
Ouais, mais je sais pas, je crois que c'est une autre mentalité, les gens qui sont dans la food.
Ouais, t'as quand même pas mal de boîtes dans la food qui marchent bien. Enfin, t'avais MyFood, enfin, la Serre Connectée, t'as Hoplunch qui marche bien en ce moment, qui est cool, il fait des super bons plats. T'as T'as quelques boîtes dans la foule, t'as un truc sur les petits déj aussi, donc comment ça s'appelle là, qu'ils ont changé. Zendej, qui vient du coin aussi, je crois.
Baguette box.
Baguette Box, ouais, Maurice, ouais, Baguette Box, c'est top. Donc t'as quand même pas mal. T'as Simple, mais qui est pas Grand Est, mais qui est pas Strasbourg, mais c'est une boisson aussi. Qui eux ont finalement
Oui.
rejoint et qui bah, ils sont très contents d'avoir rejoint Skyinov parce que ça les aide, quoi. Donc tu vois. Même dans la food, hein. Mais c'est vrai qu'en food tech, on est plutôt bien dans le coin et on met pas trop en avant, quoi. Tu vois, c'est pareil. C'est des choses. Bah, après. Les volontés politiques nous dépassent, c'est toujours pareil. Après, se battre pour des bouts de grâce. Il y a des choses qu'il vaut mieux pas, il vaut même pas, mais pas, il vaut mieux pas perdre de temps là-dessus.
Mais il avait dit Rémi que justement la politique avait ralenti justement le monde des startups à Strasbourg.
Enfin, après, est-ce que c'est, ouais, je pense que oui, c'est partout pareil, mais bon. En particulier à Strasbourg, oui, avec une volonté de. Parce que pour les politiques, les startups, là peut-être un peu moins, mais c'était genre des sortes de. C'était un nom fourre-tout pour se faire mousser, pour faire jeune. Genre, mais si, on aide les startups. En fait, c'est quoi une startup? Ah, mais je sais pas, après tu visais. Voilà.
C'est des gens, ils se mettent entre eux, ils font un truc.
Et voilà, après ça a été détourné, genre tout ce qui est start du territoire, c'est genre, je sais pas, le boulanger qui rejoint un truc, oui, mais c'est pas une startup, c'est un boulanger. J'ai rien contre les boulangers, j'adore, mais une vraie startup, c'est Maurice. Il bosse avec des boulangers, mais sa boîte c'est innovant et il y a une hyper croissance, donc ça c'est une start-up. Mais je sais pas, enfin, voilà, des fois c'est des trucs où si j'ouvre un restaurant collectif, enfin, c'est super, c'est une géniale initiative, mais c'est pas une start-up. Et voilà, donc il y a beaucoup, le nom a été utilisé dans tous les sens et a souvent été utilisé par les politiques pour se faire mousser, genre mais si, on vous aide, mais de où vous nous aidez. Par contre, quand il faut faire des photos et serrer des paluches, là il y a du monde, mais quand il faut après. Utilisé comme client, etc. etc. Là, il n'y a plus personne. Après, bon, il y a quand même des trucs qui se bougent. Hein. Dans la medtech, on est quand même un peu aidé. Comme je dis, c'est toujours difficile parce que c'est des grosses machines. Il y a toujours une partie des gens qui veulent vraiment aider, qui arrivent à aider, mais c'est jamais tous, quoi. Et on essaie toujours pareil, on n'est pas jamais, il n'y a jamais un vrai alignement de tout le monde, en fait. Mais partout, que ce soit bah, à l'Eurométropole, que ce soit à la région, même au niveau du gouvernement, la BPI, tous ces gens-là, partout, il y a des endroits où il y a des gens qui sont géniaux et qui essaient d'aider. Ça, il faut le savoir, mais par contre, c'est pas tout le temps tout le monde, c'est pas tout le temps ce qu'on entend ou qu'on voit.
On verra si on arrive à être un bon écosystème à Strasbourg.
On va y arriver, oui, il n'y a pas de raison. Nous, on va tout faire pour aider à porter l'écosystème. On est quelques-uns maintenant avec une mentalité qui évolue et qui est plutôt portée vers la croissance, vers le business, vers la visibilité. Nous, on est B2C, donc on a une chance de peut-être être plus visible que d'autres. Et on essaiera d'utiliser ça.
Mais je pense que la MedTech à Strasbourg, ça va exploser plus rapidement que les autres branches des startups.
Ouais, probablement. Enfin, après, oui, ils sont un peu plus visibles. Il y a Physimed qui est bien visible, il y a HypnoVR, dans ceux que je connais, et puis il y en a encore d'autres, quoi. Enfin, il y a Visible Patient qui, pareil, moi, c'est plus vraiment une startup, quoi, puisque la boîte est assez ancienne, entre guillemets, mais qui a encore l'esprit startup. Et qui participe comme il peut. Il y a voilà, du Toc Toc Doc qui a fait une levée il n'y a pas longtemps. Voilà, il y a pas mal de boîtes dans la medtech aussi qui peuvent porter. Après, ça reste. Alors, moi, je ne le considère pas trop comme étant medtech. Hein, Cuitant, on est plutôt tech. Hein, puisque
C'est un peu les deux.
bah, on n'a pas de médecin dans l'équipe, on n'a jamais eu de médecin, on n'a pas cette approche. Enfin, même si on a une approche plus scientifique que médicale autour de ben, tout ce qui est psychologie cognitive et thérapie comportementale plutôt que médecine. Puisque l'addiction, c'est ça, hein. L'addiction, c'est pas médical, hein. Même si les médecins, ils adorent prescrire des drogues, enfin des médicaments, pardon. Drogue, c'est drugs, hein. C'est le mot en anglais, c'est pour médicaments, c'est drugs. Hein. Bon, bref, ils aiment prescrire, mais prescription, ça, dans ce cas-là, ça marche pas. Et donc, c'est une approche plus psychologique vraiment que médicale. Mais ouais, les medtech, c'est pareil, c'est. Elles cèdent entre elles, mais elles ont raison, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est des hubs et entre elles, elles grandissent, quoi. Mais pareil, si tu as trop d'ego, ben, tu veux être le seul à grandir. Et quand tu n'as pas d'ego, tu comprends que à 10, tu grandis plus vite que tout seul. Mais certains supportent pas et certains veulent être un peu moins grands, mais beaucoup plus grands que tout le monde, plutôt que être peut-être le troisième plus gros, mais beaucoup plus gros que ce que tu aurais été si tu avais été le plus gros des plus petits. Enfin bref, je sais pas si je suis clair, mais.
Si, je comprends. En fait, c'est la phrase, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
Voilà, c'est ça.
Allez, les gens à Strasbourg, là, moi j'aimerais bien voir exposer parce que moi j'aime ce milieu. Mais j'espère que ça prendra moins de 5 ans. Moins de 10. Allez, je suis
Non, moins de
simple.
5 même, après ouais, 5, on verra les choses. Dans 5 ans, on pourra refaire un point, voir si bah là, il y a quand même la fraîcherie Strasbourg qui se bouge. Maintenant, elle a que 2 ans hein, depuis que ce qu'on a qu'on est communauté French Tech, donc on a repris le pouvoir entre guillemets sur cette partie-là, sur le label. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça dépendra de ce qu'on est en capable d'en faire. Mais voilà, et puis il y a quand même des gens avec une bonne mentalité qui aujourd'hui grossissent, et finalement les petites graines plantées par les institutions qui ont quand même le mérite d'exister, elles portent leurs fruits. Et puis ce qui manque encore vraiment aujourd'hui, c'est d'avoir pas, enfin d'attirer des fonds d'invest pour les scale-up, quoi.
Parce que là, il y a Incubator qui est rentré, donc ça fait un
Il y a un
nouveau
deuxième incubateur. Ouais.
Incubator. Je crois qu'il y en a un troisième là.
Mais il y en a même depuis longtemps, mais il avait fermé, je sais plus trop. Mais je sais plus. Bon, en tout cas, il y en a deux, au moins deux, ça c'est bien. Il y a un accélérateur. Il en faudrait plus, mais il y en a au moins un, et il faudrait surtout plus de fonds.
Il y a un fond.
Bah, il y a Capital Grand Est, mais il y a pas, aujourd'hui, ils n'ont pas closé leur dernier fonds. Donc, à part faire du sourcing en disant si vous avez des projets, envoyez-nous des pitchs. Voilà. Et puis ils ont leur track record, il est pas ouf,
Mais
quoi. Mais il faut.
Michel Hussard, c'est un investisseur.
C'est un business angel. Ouais.
Oui, mais il n'a pas créé son propre fond.
Si, ça, ouais, bon après c'est plus son. Oui, c'est un super BA, on va dire. Mais il est bien, mais il investit autant ailleurs que de l'écosystème que dans l'écosystème. Il faudrait qu'il soit un peu moins frileux pour l'écosystème, Michel, si tu m'entends.
Investi dans les startups.
Enfin, du coin, et pas arrêter d'investir à Bordeaux et à Paris et à Lyon dans des boîtes qui sont un peu moyennes. Bref. Et non, mais après, dans les BA, il y en a, mais alors, trouver, je sais pas, j'ai une connerie, entre 50 000 et 300, 200, 300 000 euros d'investisseurs. Entre 50 000 et 150 000, c'est facile. Pas facile.
C'est plus accessible.
C'est pas facile, mais il y a des investisseurs dans le coin qui, pour quand tu cherches ce type de montant, mais après, quand tu commences à chercher 500 000 ou plus, là, c'est beaucoup plus dur, il y a beaucoup moins de monde, et c'est là qu'il faudrait des fonds early stage, pas forcément moins frileux ou avec plus de flair pour après investir et avoir un bon track record et puis refaire des nouveaux fonds, quoi.
J'ai l'impression que Kima Aventure, c'est un des fonds qui investit le plus.
Ouais, ils investissent dans entre 2 et 5 boîtes par semaine, mais ils ont entre 500 et 1000 dossiers par semaine, donc voilà. Alors qu'un fonds classique, tu as plutôt à 2 pour 1000, 1 pour 1000 de chances d'avoir un invest, enfin de chance. De pourcentage, et Kima, t'es plutôt à 3-4 pour 1000. Et il y a un business angel, enfin ABA ou Yeast, qui est aussi trop cool. C'est des gens qui sont en Lorraine, mais qui investissent aussi à Strasbourg. En général, on va être 3 et 6% de dossiers qui sont retenus.
Mais donc ils ont une bonne moyenne, qui m'a vendu.
Kima, ouais, 3 pour 1000, 6 pour 1000, ouais,
C'est
quand
pas
même.
mal. Et ils investissent des grands tickets, enfin la
Non, ils
moyenne,
mettent
tout ça.
entre 100 et 200.
Ouais.
C'est
Non,
bien.
c'est.
Après, sachant que si t'as Kima qui met chez toi, automatiquement, t'as des gens qui vont te dire oui parce qu'il y a Kima. Enfin, c'est
Ouais,
toujours
c'est
pareil.
crédible.
C'est ce que je disais avant, quand t'as une personne qui met, ben, les autres vont mettre parce qu'ils diront ah merde, j'ai peur de rater quelque chose. Et si cette personne-là, elle met pas, ben voilà. C'est ce que disait Elon Musk. Il disait, oh, je sais plus qui, une boîte était venue, et elles avaient besoin, je sais plus, genre d'un million. Et Elon Musk leur a dit, ok, je vais vous mettre 10 000 euros, 10 000 dollars. Par contre, vous direz qu'Elon Musk a investi. Et du coup, effectivement, ils ont trouvé le reste sans souci. Mais Elon Musk a juste mis 10 000.
Ouais, le mieux 2 euros, quoi.
Mais ils ont dit, bah, on a Elon Musk qui a investi. Ou je vois où c'était Bezos. Je crois que c'était Bezos, l'histoire.
Dans tous les cas, les deux, ça a du prestige, qu'on
Ah
les aime ou
oui,
pas.
c'est toujours pareil. C'est le nom. Enfin, l'investisseur, il investit un peu sur ton projet. Et si, l'équipe, s'il voit, imaginons, je ne sais pas si c'est aussi ce qui manque. T'es ex-Google, ex-Googlers, t'as bossé 5 ans chez Google. T'as fini un assez bon poste, tu prends tes potes qui a bossé 5 ans chez Uber à un autre bon poste, tu fais une startup ensemble, tu fais ton deck, tu mets voilà, ex-Google, ex-Uber avec un beau titre à côté, bah finalement déjà tu as convaincu la moitié de l'audience, quoi. Parce que cette page, l'équipe, c'est quasiment le plus important aussi. Et donc aujourd'hui, bah, voilà. Tant qu'on n'a pas ces belles histoires de dire, bah voilà, ou si tu as fait un exit avant, même un petit exit, si tu as montré que tu as été capable de vendre une boîte, bah, quand tu recherches des fonds, si tu refais une deuxième boîte, bah, ça c'est beaucoup plus facile. Enfin, il y a plein de choses qui aujourd'hui manquent ici. Par ce manque d'exit, ce manque de talents qui viennent de grosses boîtes, de la tech, et tout ça, quoi. Des vrais, bah,
R24,
R24, mais
pas
on
encore.
saura le montant dans 2 ans maintenant, 2 ans et demi, on saura combien.
Lui garde le secret?
Bah, il est obligé, il a signé
Oh,
un
je pourrais.
NDA.
Je pourrais pas faire monter une startup pour garder ce secret, ce serait trop dur.
Bah, si on dit si tu révèles le chiffre, tu
Ouais.
l'as pas, en même temps, je pense que tu le révèles pas, quoi. Après, je connais des gens dans l'industriel qui ont vendu des boîtes, mais ils ont vendu des SS2I, ils ont vendu ce genre de choses, très cher, quoi. Bah, tant que technologie stratégique a été revendue, tu avais bah, d'autres. Enfin, voilà, dans ce domaine-là, oui, mais dans les startups pures qui a été vendue.
Ici,
Il y a Mirizi qui a été vendue, je crois, c'est une startup de Metz qui a été rachetée par L'Oréal, un truc comme ça. Ils faisaient un instrument qui permettait d'associer une couleur à une odeur. Il y en a d'autres qui ont j'en connais. Je connais plus de boîtes enfin, dans le coin qui ont coulé plutôt qu'ils ont fait des exits, malheureusement.
Bah,
Mais
c'est
c'est vrai
souvent
que ça a une
ça, hein.
trajectoire normale. Enfin, il y a beaucoup plus de boîtes qui, si tu prends les pourcentages de start-up, t'en as quand même, en théorie, 70% qui vivent ou 80% qui vivent pas 3 ans, quoi.
Moi, je crois que c'était plus 1 sur 10.
Qui vivait pas 3 ans? Non, t'en as 1 sur 10 qui survit.
Oui, qui survit, pardon.
Non, oui, ça c'est après. Après, c'est quand
Après les
ça
3 ans.
c'est les techniques des investisseurs. Ils vont investir sur 10 boîtes sur lesquelles ils investissent. Il y en a entre 5 et 7 où ils perdront tout. Entre 2 et 3 où ils récupéreront juste leur mise, où ils feront peut-être du fois 1,5, fois 2. Et une sur 10 où ils espèrent faire au moins fois 10.
Ouais, ils espèrent.
Mais ils font, enfin, en général,
Ils
quand
font.
ils font du fois 200, fois 300. Si tu reprends l'exemple de Michel Lucert, quand il a investi dans. Vu qu'il avait investi, c'était un des premiers investisseurs de Vodou, bah il a fait du, je sais pas, j'ai un chiffre au hasard, mais c'est genre fois 200, fois 300 sur son investissement.
C'est quoi de nouveau?
Bah, Vodou, c'est une licorne française qui fait des jeux addictifs sur téléphone.
Parce que j'ai déjà entendu, mais le problème
Bah,
c'est
tous les petits
comment.
jeux, Piano Tile, tous ces petits jeux enfin, tous ces petits jeux sur téléphone qui te font perdre 5 minutes, c'est Vodou. Et en fait, ils essayaient pendant longtemps de faire des jeux sur mobile. Ils se sont rendus compte qu'ils n'y arrivaient pas très bien, par contre, ils arrivaient très bien à les monétiser avec de la pub. Et donc, du coup, ils ont commencé à faire publisher de jeux d'autres personnes. Et ça, ils savaient très bien faire. Et ils ont réussi à casser le système. Enfin, c'était assez hallucinant, leur croissance. Ils ont galéré pendant 6, 7, 8 ans, je crois, voire plus, ou peut-être moins. Enfin, ils ont beaucoup galéré. Et tout d'un coup, il y avait un pic comme ça, quasiment vertical, quoi. Et après, c'était fini. Après, ils avaient plié le game, quoi. Après, ils avaient un modèle, ils ont réussi à le répéter 2-3 fois. Et après, et voilà, Goldman Sachs ça a mis 300 millions, quoi. Donc,
Non, mais je me dis, il faut galérer, faut accepter de galérer 6 à 8 ans.
ouais, mais trouver le truc. Après, si tu prends Slack, ils ont galéré. Slack, c'était pas Slack au début. Slack, c'était des gens qui faisaient, je crois, un jeu, qui avaient développé une messagerie interne pour communiquer, et leur jeu marchait pas. Et puis, ils se sont rendu compte que leur messagerie interne, d'autres personnes pouvaient l'utiliser, et puis ils ont fait Slack, quoi. C'est des fois, tu sais pas trop, quoi.
Il faut, mais il faut avoir l'intelligence de se remettre en question.
Ah oui, bah
Et dire, on va
c'est.
couper en deux et on va garder que ça alors que c'est même pas notre vision de base.
Ouais. Bon, après, il faut aussi être capable de se mobiliser. Hein. J'avais aussi lu c'était une boîte dans la food à Paris. Ils faisaient de la livraison. Ils faisaient genre 80% de leur chiffre en B2C, 20% en B2B. Il leur restait, je sais pas, genre 2 mois de cash, un truc comme ça, 3 mois de cash max. Et si, là, ils allaient dans le mur. S'ils faisaient rien, ils allaient dans le mur. Et ils se sont dit, bon, ce qu'on fait, on fait plus de B2C du tout. Alors que ça représentait 80% de leur chiffre, on fait que du B2B. Par contre, tous les gens de l'équipe, les développeurs, tout le monde prend son téléphone et faire du phoning de boîte. Et donc ça les a sauvés parce que du coup ils ont réussi à choper plein de clients. Et ça c'est resté, je crois qu'un jour par semaine ou un jour par mois, tout le monde est obligé de faire du sales dans la boîte. Ce qui motive aussi à faire comprendre à la partie tech, à tout le monde, que ce que c'est le sales, quoi.
Oui, et que c'est important pour pas faire couler la boîte.
Voilà, donc ils ont compris que okay, vendre c'est dur, mais ça permet de rentrer de l'argent, quoi.
Quel est ton plus grand défaut?
Je suis impatient.
D'accord. C'est pas évident ça, Jérôme.
Non, c'est pas évident. Mais après, j'ai des équipes compréhensives, mais des fois, ouais, c'est pas évident. Et j'apprends quand même à être patient. Et je pense que c'est la patience.
Qu'est-ce que tu détestes faire dans ton métier?
Je crois que j'aime tout faire, en fait. C'est un peu. Il n'y a plus rien que j'aime pas faire, en fait. Parce que, je sais pas si même si je dis une connerie, s'il faut nettoyer la table après avoir mangé à midi, c'est moi qui la nettoie, ça me dérange pas, tu vois. Ça fait partie du truc, quoi.
Oui.
Donc, j'aime éventuellement aussi dire non à des vendeurs qui essaient de te vendre un truc. Ça me fait chier.
Ah, t'as du mal?
Une fois que tu es au téléphone avec eux, que tu as passé 4-5 coups de fil, que tu veux peut-être acheter un truc, et au final, ils ont quand même des bonnes techniques. Il y en a, ils sont très bons, ils sont bien meilleurs que moi. Donc, dire non après 5 coups de fil, c'est dur. Après, dire tu me fais chier après avoir reçu 5 emails, réponds 1 si tu n'as pas vu ce mail, réponds 2 si tu crois que c'est pas toi la bonne personne, et réponds 3 si tu aimes les chiens, mais ça me fait chier. Les mail automation de Namelist, je commence à avoir à la casquette, mais.
Ah oui, parce qu'ils sont à fond la liste.
C'est des mails de merde. Après, à chaque fois, ils écrivent tous les mêmes. Ils ont tous l'impression qu'ils ont tous le même copywriting. Et puis, tu sais, ils te disent, c'est des mails automation. Et puis, en fonction de si
Ouais.
tu réponds pas, ils vont t'en envoyer 50 000. Et après, ils disent, promis, c'est le dernier. Et après, t'en reçois encore un derrière, quoi. Mais donc, dire non au téléphone, ça m'énerve.
Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante?
Aucune que je peux révéler, mais. Un truc qui a failli faire que j'aurais pas fait ma startup, mais c'était même avant que j'ai la boîte, j'en devais être en 2000, 2014, je crois, 2013, 2014. Et j'étais allé à Paris à un event. À l'époque, c'était Presse Citron, tu te rappelles de ce site? Et ils avaient organisé un event avec des investisseurs, tout ça. Et moi, j'avais même pas de startup. Hein. J'étais genre, j'avais fait mon app. Hein. Et j'étais abonné, j'étais Presse Citron Premium. Donc, du coup, j'ai eu une invitation, j'y suis allé. Il y avait des tables rondes comme ça. Je me disais, putain, qu'est-ce que je fais ici, quoi? Il y avait que des gens qui avaient déjà leur boîte avec des salariés, des levées de fonds de plusieurs centaines de milliers d'euros, tout ça. Donc, la matinée, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fous là, quoi? Et j'avais encore en fin d'après-midi, quand même, un call, enfin, une table ronde avec des investisseurs. Et avec Bartek, avec des gros fonds, Isaïe et tout. Alors, je dis, bon, si je suis là, hein, je vais y aller. Après-midi, donc je me casse, j'en ai marre, j'en pouvais plus. Je suis allé me promener à Paris. Je me dis, ouais, c'est bon, ces gens-là, je ferai jamais aussi bien qu'eux. Ils ont tous. J'avais parlé à un investisseur, un gars, il m'avait regardé de haut en disant, j'avais demandé, tiens, qu'est-ce qui, selon vous, fait la fibre entrepreneuriale? Il m'avait, à la parisienne, il m'avait bien chié dans la bouche, quoi. Et je suis quand même retourné, du coup, l'après-midi. Et donc, j'ai pitché devant les. Enfin, c'était un exercice de pitch. Donc, on était trois autres. Enfin, j'étais avec deux autres start-upeurs, quoi. Donc, j'avais déjà pitché beaucoup mieux qu'eux. Mais j'étais complètement démoralisé, quoi. Donc, un des gars m'a dit, non, mais super pitch, mais tu peux pas un peu sourire, quoi, quand tu pitches, quoi. Et en fait, j'avais peu de temps avant, j'étais en contact avec un mec de Partech. Et j'avais pas calé, il était en face. Et pendant ce temps, il m'écrit un message. Il dit, bah, tu vois, on devait se voir, c'est bien qu'on se voit, quoi. Et donc, on a continué à se parler. Donc, mais il n'a jamais investi chez nous. Par contre, le fait qu'il m'ait reconnu et que lui m'a dit que quand j'avais bien pitché et que c'était vachement intéressant, bah, ça fait que je me suis dit, bah, peut-être par la suite, il y a un truc. Mais quand j'ai parlé au premier le matin, premier investisseur le matin, en étant debout et qui m'a chié dans la bouche, là, c'était un peu honteux.
Ouais.
Je me suis dit, je suis pas à ma place, quoi.
Ouais, t'as pris pour ton ego.
Même pas forcément l'ego, quoi. Le mec était vraiment pas sympa, quoi. L'ego, moi, je m'en fous. Enfin, je pense pas avoir d'ego, en fait. Enfin, pas spécialement mal placé. La preuve, ça se passe très bien avec mes associés parce que justement on n'a pas l'ego mal placé. Et ça s'est pas très bien placé dans mon autre startup parce que mon autre associé avait un ego relativement solaire, on va dire.
Bon, après, on croise des connards un peu partout, hein. Pas pour ton associé, je parle de Paris.
Oui, mais après, oui, c'est ça. Mais par contre, voilà, sur le coup, tu te dis, ou quand tu es à une table ronde sur comment ça se passe après avoir levé des fonds, moi je sais déjà levé des fonds, c'est quoi? Et le mec, il te sort, oui, alors que oui, on vient de lever 600 000, alors en 2012, hein, c'est comme aujourd'hui, tu lèves deux, quoi, ou un et demi. Donc. Et ça, tu te dis, pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais ici? T'avais juste une seule envie, c'est rentrer chez toi. Et du coup, voilà, j'étais quand même content du coup d'y être allé le soir et d'avoir rencontré Boris. Et ce que Boris m'a dit à ce moment-là, bah vas-y, continue quelque part. Et que un des autres fous m'a quand même donné sa carte de visite en me disant envoie-moi ton deck, même si ça n'a rien donné, qui a eu cet intérêt, ça m'a fait continuer. Je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc.
Et quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné?
Mais le meilleur conseil, alors ouais, si, c'est no money, no mission. Pas d'argent, pas de mission, quoi. En gros, ben, faut pas avoir honte de vendre un truc, quoi, en gros, quoi. Faire en sorte que, voilà, oui, on a une super offre gratuite, mais le but avec une offre gratuite, ben, les gens, tôt ou tard, t'as plus de cash et tu peux plus aider les gens. Donc, si tu veux aider les gens, c'est pas honteux d'avoir besoin d'argent. Ça rejoint la discussion qu'on avait avant sur, effectivement, ben, en France, l'argent, c'est sale. Oh, mon Dieu, tu gagnes de l'argent, tu vas au pilori et tout ça, quoi. Mais ce qui est nourri par effectivement des comportements indécents de gens qui ont beaucoup trop d'argent et qui font n'importe quoi. Hein. Je dis pas que c'est pas que certains a priori sont pas justifiés ou mérités, mais à côté de ça, il faut aussi comprendre que ben, pour faire des choses, même au-delà de ça, si t'as pas d'impôts, tu payes pas les écoles, tes routes elles ont des trous, t'as pas de train, t'as pas de système de santé, t'as pas de pompiers, t'as pas de police. Donc globalement, voilà. D'un côté, donc c'est pareil, donc il faut de l'argent pour produire un produit, et si ce produit rend un vrai service, ben c'est normal qu'il faille payer pour, quoi. Donc voilà, donc no money, no mission.
D'accord. Bah, merci d'avoir participé à ce podcast.
Mais merci, Priscilla.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.